Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Il fait partie des nouveaux pédagogues qui ont révolutionné l'école après la Première Guerre mondiale pour en faire un lieu d'accueil et d'apprentissage plutôt qu'un lieu d'ingestion des normes. Il a adopté le cinéma pour porter son discours et délier l'enfance en détresse. Fernand Deligny, avec ses cartes et sa caméra, c'est tout de suite dans toute une vie.
Ce que je voudrais dire, c'est que ce mot d'asile qui est odieux, par derrière, il y a le droit d'asile. Voilà. Hein? Et que c'est pas rien. Et au fond, je m'aperçois, parce que je n'ai pas fait tout ça exprès, que c'est un peu... Cette recherche, comme on dit, que je mène, c'est qu'en est-il, qu'en serait-il d'un asile humain, hein, en se disant que ce mot d'humain que tout le monde emploie, peut-être qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire.
Fernand Deligny, Savoir réseau tramé. 1913-1996.
Je trouve qu'il est à une connexion politique du social et de l'art qui est inédite. Parce que on n'essaye pas de guérir par le social, par l'art. C'est juste que ça permet de poser un regard différent sur une réalité que personne ne veut regarder.
Un documentaire imaginé par Luc Vauvillier et réalisé par Marie Placé.
Rien à faire. Ils l'ont bien dit. Incurable. Insupportable. Invivable. Incurable. Invivable alors, la société a tout prévu. Et même des lieux où invivre, le soit prévu. Et il se trouve que ce lieu-là prévu pour, je le connais. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, des arbres il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres.
Deligny avait découvert l'asile assez jeune, en fait. Hein. Il avait des amis qui étaient internes précisément à l'hôpital psychiatrique d'Armentières, qu'il avait visité plusieurs fois. Et il avait été très, très frappé, déjà tout jeune, par quelque chose de très particulier qui se joue entre les personnes internées, comme on disait à l'époque. Et il va retrouver ça dans sa pratique lorsqu'il se retrouve éducateur spécialisé à Armentières en 1940.
Catherine Perret, philosophe et psychanalyste, autrice du livre « Le Tacite, l'humain, anthropologie politique » de Fernand Deligny.
La Seconde Guerre mondiale a été, comme on sait, évidemment un moment de destruction massive, et notamment des grandes institutions, et évidemment des hôpitaux psychiatriques, qui ont été bombardés. Hein, et donc Armentières a été bombardée, et Deligny a vécu dans cet hôpital psychiatrique bombardé, avec comme conséquence différentes choses. D'une part, la mort d'une quantité de malades considérable. D'autre part, la fuite des gardiens et des médecins. Et enfin, troisième élément qui n'est pas sans intérêt, qui est la fuite des malades eux-mêmes, qui se sont, disons, réinsérés dans la société très normalement, interrogeant effectivement la nature de leur maladie. Vous avez en France, pendant la guerre, énormément d'enfants abandonnés, orphelins, voilà, errants. Ces enfants sont pris en main à la fois par la justice et par la médecine de l'époque, et ils sont adressés dans différents établissements, dont Armentières. Deligny raconte, je crois, qu'il y a à peu près 700 enfants qui sont dans l'IMP d'Armentières à l'époque de la guerre. Et ces enfants vivent la condition asilaire plus généralement, qui était celle de la population psychiatrisée en France, qui était tout simplement la famine. Et une famine dont on découvre depuis une dizaine d'années progressivement qu'elle était en partie organisée par l'administration de Vichy.
Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Pas de goût. Du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres? Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir? Que le temps qui passe? Et le temps, ça ne se voit pas.
Il est devenu éducateur, si on peut dire, parce qu'il a à peine un diplôme, enfin bon, et écrivain en même temps.
Sandra Alvarez de Toledo, fondatrice de la maison d'édition L'Arachnéen, qui publie et republie les œuvres de Fernand Deligny.
La première chose qu'il publie donc aux éditions de l'Opéra en 44, ça s'appelle Pavillon 3, et ce sont des nouvelles qu'il écrit à partir de son expérience du pavillon de l'asile d'Armentières. Tout de suite après, il publie Graines de crapules. Il appelle ça des cerfs-volants. Il lance des cerfs-volants. C'est pas des cerfs-volants, c'est des petites bombes. C'est des aphorismes extrêmement virulents. Ça s'appelle Graines de crapules. Conseil aux éducateurs qui voudraient la cultiver. Donc, il cherche tout de suite une forme littéraire.
Lance-toi. Si tu veux les connaître vite, fais-les jouer.
Si tu veux les connaître vite, fais-les jouer.
Si tu veux leur apprendre à vivre...
Si tu veux les apprendre à vivre...
Laisse les livres de côté.
Laisse les livres de côté.
Fais-les jouer.
Fais-les jouer.
Graines de crapules, 1945.
Si tu veux qu'ils prennent goût au travail...
Si tu veux qu'ils prennent goût au travail...
Ne les lis pas à l'établi.
Ne les lis pas à l'établi.
Fais-les jouer.
Fais-les jouer.
Si tu veux faire ton métier, fais-les jouer, jouer, jouer.
Si tu veux faire, c'est ça?
Oui.
Ok. Si tu veux faire ton métier, fais-les jouer, jouer, jouer.
N'oublie jamais de regarder si celui qui refuse de marcher n'a pas un clou dans sa chaussure.
Méfie-toi, celui qui veut se montrer, c'est qu'il a envie de se faire voir, donc de se cacher.
Et s'il te plaît, ne compte pas sur le pouvoir des mots. As-tu déjà entendu un paysan parler à ses betteraves? Un jardinier à ses salades, un vigneron à ses raisins. Ils font ce qu'il faut pour que ça pousse et sont fort respectueux du temps.
L'action de Deligny a toujours consisté, au fond, à déspécialiser et à, j'allais dire, désenclaver l'action thérapeutique ou l'action éducative. Et la première manifestation de cette politique de Deligny s'adresse aux gardiens de l'asile d'Armentières, qui, en fait, étaient très souvent d'anciens chômeurs. On est dans la région de Lille, donc il y a tous les chômeurs du textile qui, faute de travail, se sont engagés, qui dans la marine, puis qui gardiens de prison, et qui, deux gardiens de prison, se retrouvent gardiens d'hôpitaux psychiatriques et gardiens d'enfants psychiatrisés. Donc il y a toute une, comme ça, une chaîne. Et Deligny va s'adresser à ces hommes, puisque en général ce sont des hommes, en finalement les convoquant à être là comme citoyens et non pas comme gardiens. et il va leur demander d'utiliser, au fond, leur savoir-faire et non pas leur supposée compétence de gardien pour vivre avec ses enfants et pour organiser qui un club de football, qui un atelier de broderie, qui, etc. Et je crois que c'est cette idée très très forte de Deligny que dans les institutions, ce qui fait tenir éventuellement les institutions, à supposer qu'elles tiennent, ce sont au fond les interstices, les seuils, ces endroits où les pratiques, des pratiques se développent, qui ne sont pas nécessairement prévues par l'institution, qui sont plutôt de l'ordre, au fond, on va dire, de la vie, de l'improvisation, de ce qui se trame entre les gens, et qui véritablement nourrissent secrètement, invisiblement, la vie institutionnelle.
J'aime bien. Tac, slack, slack. Hein? Alors, je te dis la phrase une fois, Jean-Claude ?
Ouais, ouais.
Lorsque tout marche bien, il est grand temps d'entreprendre autre chose. On le redit une fois, je te le redis une fois, Jean-Claude ? Lorsque tout marche bien, il est grand temps d'entreprendre autre chose. Je te le redis encore une fois ?
Ouais.
Lorsque tout marche bien, il est grand temps d'entreprendre autre chose.
Ouais. Lorsque tout marche bien, il est grand temps... Il est grand temps d'entreprendre autre chose.
Bonjour madame.
Petit malheureux, va.
Sortir de l'asile d'Armentières, il va diriger ce qu'on appelle un centre d'observation et de triage, un COT, qui existe dans toutes les régions et qui est créé après la guerre pour réunir des adolescents qui sont sur les routes, qui sont potentiellement des délinquants, qui sont parfois des psychotiques. On les réunit pour trier ceux qu'on va envoyer soit vers un asile psychiatrique, soit vers des écoles, soit vers la prison, si vraiment ils sont irrécupérables.
Richard Coppens, réalisateur du film « Monsieur Deligny, vagabond efficace ».
Et donc Deligny devient directeur du centre d'observation et de triage du Nord, et évidemment il va inverser le programme qu'on lui propose, il va en faire un lieu de vie. Et dans ce lieu, ça fonctionne tellement, en particulier, il y a la police qui vient pour chercher des adolescents. Ils refusent d'ouvrir ses portes pour que la police récupère les adolescents. Donc ça devient un lieu, au contraire, un foyer d'une contre-culture avec des adolescents que la société veut faire rentrer dans l'ordre. Et donc, en moins d'un an, les autorités de la région décident de fermer le centre, officiellement, pour lui confier la direction d'un nouveau centre avec un nouveau fonctionnement et des nouveaux moyens. Et en fait, c'est juste pour liquider le lieu, d'où Deligny sera exclu, et il continuera ensuite vers de nouvelles aventures avec la Grande Cordée.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
De toute façon, moi, pour ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends ?
Oh, les miens, ils en ont vu d'autres.
Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive ma vie. Je leur écrirai une lettre pour leur expliquer.
Tout de suite ?
Oui, ça vaut mieux. Salut.
Salut.
Et la Grande Cordée, c'est une... C'est un moment, disons, assez extraordinaire. C'est-à-dire, il convainc le ministère qu'il va créer une cure libre, c'est-à-dire on lui confie des adolescents qui viennent soit de l'hôpital, soit de la prison, ou juste avant la prison, donc des adolescents, pareil, supposés dangereux. Et avec eux, il propose de les envoyer là où ils veulent travailler, vivre ce qu'ils ont envie de vivre, parfois loin de Paris. d'une part en s'appuyant sur l'appui des communistes au pouvoir et de Henri Vallon au secrétariat à l'enfance, et sur l'air du temps parce que c'est un moment où les auberges jeunesse sont en plein développement. Et c'est un mouvement tout à fait enthousiasmant. C'est l'idée, bah, y a un père aubergiste qui a un endroit où les jeunes qui voyagent peuvent venir. Donc c'est un endroit de vie collective. On invente des activités, on est en réseau avec d'autres auberges de jeunesse. Et donc, quand on lui confie un jeune, psychotique ou délinquant, y a les deux origines, on lui amène le jeune. Il explique d'ailleurs qu'on lui amène le jeune, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend le dossier qui accompagne le jeune et il le met au feu pour bien montrer au jeune que de son passé, on a fait table rase. Et donc, il le confie à un père aubergiste. L'adolescent dit, bah, je vais faire de l'avion. On trouve un aéroclub près de Bordeaux et le père aubergiste accueille l'adolescent. Et à partir de là, si tout va bien, disons, eh bien, l'adolescent va monter en avion, il va s'occuper de l'avion, et peut-être qu'il deviendra mécano ou pilote, je sais pas, mais dans le meilleur des cas, en tout cas, il ne revient ni à l'asile, ni à la prison.
Asile ? On voit de quoi il retourne. Image ? Brèche dans le mur du haut. On voit que de quoi il retourne. Image, asile.
Canaillan, chez la psychologue.
Si elle laisse tomber son crayon, ramasse-le. Mais regarde pas ses jambes. Sinon, c'est marqué sur ton dossier.
Dossier ? Mais quel dossier ?
Bah oui, c'est ce qu'on sait sur toi, c'est ce que pense le docteur, ce que pense le juge. Enfin, même ce que pensent les voisins de tes parents. Remarque bien que moi, mon dossier, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a marqué que je suis un instable psychomoteur à tendance perverse.
Et si je dis des conneries et que je parle comme ça pour
bah déconner? Alors là, t'es bon pour Sainte-Anne. Et puis à Sainte-Anne, on te fait passer le 38e parallèle.
38e parallèle?
Vanel?
Ouais.
Deligny a toujours aimé le cinéma et très très vite il va penser que le cinéma fait partie de toutes les tentatives qu'il va faire au cours de sa vie. Alors il aime le cinéma, il y va quand il est étudiant, bon ça c'est une chose, mais en 58 il reçoit une lettre d'un jeune qui s'appelle François Truffaut, qui n'a pas fait de film, qui vient juste de lire son roman Adrien l'Homme. Eh bien, il écrit en pensant que peut-être il aurait des propositions à faire, en tout cas, il aurait des avis sur le scénario qu'il est en train de terminer, qui s'appelle « Les 400 coups ». Deligny lui répond en critiquant le scénario sur deux ou trois points, mais lui répond en disant « Le seul fait que vous présentiez l'évasion comme sous un jour positif, ça me suffit pour vous aider ». C'est-à-dire le fait de s'évader de l'asile, eh bien, ça suffit pour que Deligny lise ce scénario. Truffaut et son scénariste descendent, il n'est pas encore dans les Cévennes, il est dans l'Allier à ce moment-là. Il vit avec des chèvres, avec Yves, le psychotique de la Grande Cordée. Et Truffaut repart enchanté avec une nouvelle fin, parce qu'il avait bien imaginé à la fin de son film que le jeune Antoine Doinel s'échappait de l'asile, mais il avait juste écrit une scène où il cassait le carreau et s'enfuyait dans la nuit. Alors que ce que lui propose Deligny, c'est qu'il s'enfuit, il court, et il traverse une longue plage du nord, comme par hasard, et il va jusqu'à la mer. Et donc cette fin, qui est la fin magnifique des 400 coups, elle vient de Deligny. Truffaut est enchanté, le film a un prix à Cannes, et Deligny se dit, bah voilà, j'ai envie de faire du cinéma, Truffaut va m'aider. Et même, ça l'encourage à faire du cinéma. La suite de La Grande Cordée, il va vivre dans les Cévennes avec deux ou trois personnes qui venaient de La Grande Cordée, qui continuaient avec lui, et deux ou trois autres personnes, dont José Maninti, et là, il s'installe dans les Cévennes. D'abord à Toiras, puis à Anduze, et il va décider pour la première fois d'utiliser le cinéma. Il va penser que le fait que toute l'équipe réunie autour de lui se mobilise autour d'un film à faire, autour de Yves, qui est un psychotique bavard, qui écoute la radio tous les soirs, qui se met à délirer avec des discours qu'on ne peut pas arrêter souvent dans la journée, eh bien, il construit jour après jour. Une histoire, c'est beaucoup dire, l'idée est simple, Yves est dans un hôpital psychiatrique, il s'évade et on le retrouve. Voilà, bon, ça c'est le scénario. Mais ça met en place toute une série de séquences dans la nature où Yves s'enfuit avec un autre camarade qui s'appelle Richard et il est confronté à toute une série de situations. Et le film est tourné comme ça par José Manati qui n'avait jamais filmé avant. C'est elle qui finance la caméra, la pellicule et qui tourne. Une femme qui deviendra ensuite psychanalyste, travaillera avec Lacan et après avoir quitté Deligny.
Ici, Deligny.
Le moindre geste, 1971.
Cette espèce de bonhomme, c'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive, et... dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un la prend?
Monter, c'est jouer.
Jean-Pierre Daniel, monteur du moindre geste.
Mais il y a quelqu'un qui, à un moment, a regardé les 3 heures qu'on avait montées, sans le son. Et à qui on a montré ça, à la demande de Deligny, qui nous dit, va le voir, lui. On lui montre ses 3h30, c'est Chris Marker. Un soir, dans une pièce, on arrive avec notre film, il avait un petit appareil projection 16, et on lui a projeté pendant 3h30 ce qu'on avait fait à ce moment-là. Il n'a rien dit. Tout le long de la projection, à la fin, il m'a simplement dit « Tu restes là, demain, tu as une salle de montage. » Et donc, à partir de là, j'ai eu une salle de montage, la possibilité de repiquer des sons, de commencer à travailler. Ça a duré 3 mois à peu près, alors que ça faisait 2 ans qu'on travaillait. Et dans ces 3 mois-là, de temps en temps, il venait, il s'asseyait à côté de moi. Mais sans rien dire. Simplement, il rigolait. Ou il me tapait sur l'épaule en disant « Vas-y. » C'est-à-dire « Vas-y, joue. » Et je lui ai souvent dit « On ne savait pas qu'on faisait un film. » Et moi, l'idée qui dure 1h45, c'est tout à fait par hasard. C'est pas voulu. C'est un long métrage, ah bon. C'est un film documentaire, ah je sais pas.
Dans une Strasbourg, ça marche, les sonnets, les puces, tout ça, ça marche, ouais, dans le ventre, ça descend bien, elle est parfaite.
Comment il prend, s'il vous plaît?
Comme dirait l'autre, ça marche.
Un crâne de fièvre.
Mais ça, ça marche non, pas!
Un
non, pas du tout! Non, rien du tout! Et quoi encore? Ça avait des tas de pieds! Elle avait marché, là!
Mais
ça,
moi, ça, je l'ai cher!
Ah oui!
Descendre.
Marcher, pas des tas de pieds!
Il me semble que ce film-là est très, très fidèle à la personnalité de Deligny, qu'il avait. On peut dire une existence poétique à la limite du tragique, quand même, toujours, comme ça.
Jean Houry, psychiatre et psychanalyste, 2006.
Et il me semble qu'il dit bien que prendre la parole, c'est toujours des formules de Deligny. Hein. C'est très dangereux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'est-ce qu'elle devient? Prendre la parole, vous vous rendez compte? Quel culot, hein. Dans le dernier livre, un des derniers, parce qu'il va y en avoir d'autres. Et alors là, ça s'appelle Essi et Copo. Dedans, il y en a qui sont même presque comme des haïkus japonais. Par exemple, je vais vous lire quelques petits encoches comme ça. Hein. Par exemple, 83. Hein. Il dit « Il fut un temps... » où il n'y avait ni lettres, ni mots. Bon. On peut enchaîner, hein. On va voir si ça peut s'enchaîner. Et puis, à un autre moment, il dit « Le langage mène à tout. D'aucuns n'en reviennent jamais. » On peut continuer un peu. Hein. 115. Il dit, les mots sont comme des galets dans la mer. Ils se lissent à l'usage. C'est une existence très poétique, concrète. Hein. Le moindre geste est bien souvent d'origine langagière. C'était un poète extraordinaire quand même.
La tentative de Doligny ne tombe pas du ciel.
Catherine Perret, philosophe, psychanalyste.
Elle appartient à un contexte très précis qui est le contexte des révolutions, plutôt des micro-révolutions dans les institutions psychiatriques et pédagogiques qui se sont développées à partir justement de l'épisode de l'affamement des fous dans les hôpitaux psychiatriques, à partir des initiatives de notamment Lucien Bonafé, qui était un psychiatre communiste résistant, et de François Tosquelles, autre psychiatre, lui plutôt anarchiste ou anarcho-communiste et également résistant. Doligny a très bien connu Bonafé, il a connu Tosquelles, il a connu leur successeur, Jean Houry, évidemment, Fernand Houry. Voilà, et toute cette bande hein, de psychiatres des années 50, 60, 70. Et au point que lorsque Doligny se retrouve à la fin des années 50 un peu sans feu ni lieu, c'est-à-dire que la grande cordée a été lâchée par le ministère de la Santé, qu'il a presque plus d'enfants, qu'il est malade, Jean Houry l'invite en voisin, dit Jean Houry prudemment, à la clinique de la Borde, qu'il a, lui, fondée en 1953. Hein, donc on est en 1963. Et que Doligny, effectivement, s'installe à la Borde, où il va tourner d'ailleurs des images du moindre geste. C'est intéressant parce qu'on est dans le pré-68. Hein, et on aurait pu penser hein, que Doligny s'identifie à ce, disons, ces courants anarcho, trotsko, mao, etc. Et la vérité est que, en fait, Doligny, d'une part, ne s'identifie absolument pas aux événements de 68, qui se préparent bien avant 68, bien évidemment. Autant il est sensible aux guerres d'indépendance, autant, d'une certaine façon, il va être indifférent, voire hostile, hein, au mouvement de libération, en estimant que ces mouvements de libération, se libérer, c'est encore une fois, disons, réaffirmer l'asservissement hein, ou l'assujettissement hein, dont on est, au fond, l'agent principal. Donc ça ne l'intéresse absolument pas. Il faut aussi dire qu'à l'époque, il est quand même âgé, hein, il a 50 ans. Donc il n'est pas non plus concerné au premier chef hein, par la libération sexuelle. Mais au fond, indépendamment de ça, je crois que ce qui a fait qu'il s'est senti très étranger, au fond, à la Borde, c'était le fait que le projet de Jean Houry, d'ailleurs celui de Guattari, était de refonder le collectif soignant sur la base d'une certaine pratique de la parole collective. Et que c'était en se parlant que l'institution pouvait se soigner, se guérir de, on va dire, ses rigidités hein, ou ses phobies. Et qu'au fond, c'était finalement en faisant parler les gens qu'on allait pouvoir faire évoluer l'institution. Bien entendu, Doligny, qui a toujours eu un très très grand soupçon à l'égard de la puissance libératrice de la parole, précisément, c'est ce qui fait qu'il est quand même très loin de la psychanalyse, a été fondamentalement hostile. Et plus qu'hostile, indifférent à ces tentatives et qu'il n'a jamais participé hein, à ces réunions, et que donc, au fond, il est loin. Il est loin, tout simplement.
Chut, chut. Pour l'amour de Dieu, attention.
Quel vent?
C'est le vent de l'histoire.
Où sont-ils tous?
Dispersés, perdus.
Mais qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre?
Allez savoir. C'est bien passé quelque chose. Mais allez savoir quoi?
La moindre des choses, filmé par Nicolas Philibert et la clinique de la Borde.
Que s'est-il passé?
1996.
C'est la révolution. Arrachez les jambes!
Et ça?
Je n'en sais rien.
Vers où court-ils?
Droit devant eux.
Mais dites quelque chose! Auriez-vous perdu la parole?
Lorsque les choses humaines sont à l'étroit dans les mots, le langage éclate.
Deligny a une période de perte de vitesse complète après le tournage du Moindre Geste.
Sandra Alvarez de Toledo,
une amie de sa logeuse, lui amène son fils, qui est un petit garçon qui a 10 ans, qui s'appelle Jean-Marie, qui vient de passer par les services de la Salpêtrière, qui en gros l'ont diagnostiqué comme encéphalopathe profond, ce qui voulait dire qu'il était condamné à l'hôpital psychiatrique à vie. Et là, il se passe quelque chose. Il y a une rencontre. Il y a évidemment une rencontre entre ce petit garçon qui cavale partout, qui est très très vif, et notamment qui est attiré par tous les points d'eau, qui ouvrent tous les robinets. Et Deligny est immédiatement très très, je pense, touché. Il existe une photo de lui et Jean-Marie, qui est une photo étonnante, parce que Jean-Marie est sur ses genoux, alors qu'on n'a jamais vu Deligny, il n'existe pas de photo avec Deligny, ses propres enfants sur ses genoux. Et ils se regardent comme ça. Et donc, c'est à la fois une rencontre qui a certainement une dimension affective, mais Deligny ne dit jamais les choses dans ces termes-là, mais aussi intellectuelle, parce que le rapport entre l'absence de langage et le mode d'être de Jean-Marie l'intéresse immédiatement.
Cette démarche-ci, cette tentative, nous ne l'avions pas prévue. Il s'agissait pour les uns les autres d'entre nous de nous embarquer, comme ça, de revenir dans les CEN qu'on connaissait déjà, pour y avoir vécu antérieurement, avec nous Jean-Marie, avec nous un gosse autiste. Car je venais de lire Itard, pas longtemps avant, Itard, l'enfant sauvage, etc. La description de l'enfant qu'Itard avait ramené de la Lozère, l'enfant loup, quoi, vous savez, la légende, mot pour mot, ça collait avec Jean-Marie, qui avait toujours vécu en ville, avec père, mère, frère, et tout ce qu'il faut pour être heureux. Enfin, ça, il y a une surprise, ça, alors. Hein, ça, voilà, un sauvage qui tombe dans un HLM pratiquement. Et comme j'avais des comptes à régler, comme ça moralement, avec Itard, parce que je situais comme étant l'initiateur de la médico-pédagogie, en gros, hein, comme ça, tiens, on va donc faire le contraire, radicalement. Et il a amené son sauvage de la Lozère à Paris, nous on va ramener le nôtre de Paris ou de Blois, à peu près dans la Lozère, qu'on n'est pas loin, on n'est pas tombé loin, quoi. En reprenant tout ça absolument à contresens, c'est-à-dire non pas de nous dire il est handicapé, ou il est ceci, ou il est cela, mais dans la perspective très clairement pensée de mais qu'est-ce qui nous manque à nous? Qu'est-ce qui nous manque à nous pour qu'il ne nous voit pas? Qu'est-ce qui nous manque à nous pour qu'il évite de nous regarder comme si on émettait des radiations dangereuses pour ses prunelles, quoi, hein, qu'est-ce que ça. Voilà comment ça s'est posé au début. Bon.
L'eau nous a servi pour boire, pour se laver. Pendant longtemps, c'était les ruisseaux et les sources qui nous ravitaillaient en eau.
Et oui.
Et Denis l'écrit d'ailleurs que le choix, le choix de s'arrêter à la maison là, c'est parce que justement, il y avait cette fontaine qui coulait à côté et qui savait qu'au moins ça, ça retiendrait Jean-Marie.
Et Jean-Marie, justement, a passé des heures à regarder l'eau couler de la fontaine.
Il était pour la libre circulation des eaux.
Gisèle Durand-Ruiz et Jacqueline, présence proche sur le réseau.
On n'était pas éducateur, ni accompagnateur, ni on ne savait pas trop comment, qu'est-ce qu'on était. On était présent, proche, présent tout le temps. Présent.
Être là, tout le temps.
Et proche aussi aux aguets, quoi, de ce qu'ils pouvaient voir, faire. C'était pas, c'est aux aguets, hein. C'est pas surveillé, c'est aux aguets. Il n'y avait pas vraiment des projets d'accueillir plein de gamins. Hein. C'était surtout être là avec Jean-Marie. Hein, avec Jean-Marie. Il y avait aussi avec nous Yves, Yves qu'on voit dans le film Le Moindre Geste, hein, qui n'est pas autiste, bon, qui faisait partie aussi des uns et des autres, de la petite bande qui était là, pas loin de Deligny. Et puis, ça se sait que Deligny est maintenant dans les Cévennes, puisque bon, il a quand même déménagé pas mal de fois. Il est à nouveau dans les Cévennes et qu'il est, il y a quelque chose qui se passe autour d'un gamin autiste. Donc ça se sait assez vite. Et des, entre autres, des docteurs assez connus comme Manoni, Dolto et d'autres, hein, qui ont affaire à des gamins multi-autisme et ils sont psychanalystes, ils sont tout ça, ils savent pas trop par quel bout attraper ces gamins-là. Donc, il propose souvent aux parents d'essayer de voir du côté de Deligny, là-bas, dans les Cévennes. Et donc, ça, très vite, il y a des gamins qui viennent en séjour. Le projet que propose Deligny à ce moment-là aux parents, c'est... Écoutez, c'est vous qui décidez combien de temps il reste. 15 jours, 3 mois. Le but... est de montrer ou de s'apercevoir que dans d'autres circonstances, leur gamin peut être autre que comment il est d'habitude. Faut se dire que c'était des gamins qui souvent même avaient un pilulier épouvantable de pilules de toutes les couleurs qui vous assommaient un bœuf au bout de 3 comprimés et qui étaient difficiles à vivre, instables.
Quand les parents arrivaient pour voir Deligny, ils étaient aussi en désarroi avec leurs enfants. Hein.
Oui,
ça c'est quand même assez... Et donc, ils étaient après soulagés et rassurés. Deligny les rassurait. Parce qu'en plus de ça, ils ont vécu, ses parents, la culpabilité. Parce qu'à cette époque-là...
Oui, c'est vrai.
Et oui. Donc, ils se sentaient déjà coupables, et... parce qu'ils avaient fait quand même déjà le tour de tous les psychiatres. Quand ils arrivaient, ils étaient vraiment dans un désarroi total, quoi. Hein.
Et c'est à partir de leur présence que ce petit réseau a poussé. Un peu comme du chien dedans. Des aires de séjour ont lieu, là où elles ont pu trouver lieu. Une aire de séjour, c'est d'abord de l'espace. Le plus d'espace possible. Dans cet espace, une petite unité trame sa vie quotidienne à son gré. Entre chaque unité, 5, 10, 15 kilomètres et des trajets de liaison.
Alors, il y a un texte dans lequel il dit qu'il cherche un langage non-verbal, ce que serait un langage non-verbal. Voilà. Et par là, je pense qu'il désigne deux choses. Il désigne ce que seront ensuite les cartes, c'est-à-dire comment rendre compte du mode d'être des déplacements des enfants autistes dans ce que seront les aires de séjour, mais au fond, il désigne aussi sa propre écriture. Donc ça serait quoi une écriture non verbale, si on peut dire. Bon. Et une des choses auxquelles il réfléchit avec beaucoup de, presque de violence, et je voudrais vous lire une lettre qu'il envoie à Jacqueline quand il commence à vivre avec les enfants autistes. C'est Gisèle qui les amène à Jacques. C'est une lettre donc qui date du 1er décembre 1969. Il lui dit « Sur le territoire, l'autre ne doit plus être parlé, ni décrit, ni écrit. Il s'agit d'une décision radicale à la racine. Le territoire devra s'organiser en fonction de cette nécessité que l'autre ne soit pas parlé. Le territoire est un lieu d'asile où les enfants vivent dans un refuge, où ils sont à l'abri de la parole. Il faut tout faire pour que cette décision prenne. C'est à cette condition que les signes dont je parle depuis si longtemps se feront jour. Il ne s'agit pas d'exclure la parole des territoires. Elle nous est nécessaire. Ce que je demande, c'est que l'autre, et surtout les enfants, ne soient pas parlés. Chacun peut parler à l'autre, aux autres, mais l'habitude doit prendre le plus vite possible qu'il ne soit pas parlé de l'autre. L'effort sera difficile tant qu'un autre mode d'entente ne se fera pas jour. Il faudra persister obstinément. »
La politique de Deligny a toujours été, au fond, de mettre la recherche avant la thérapeutique, avant la clinique. Et de dire, au fond, il n'y a pas de bonne clinique sans une attitude de chercheur. Ce qui veut dire que l'observation est la base du métier et qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose pour des gens qui, supposément, vont mal, ni même de leur distribuer on ne sait pas quel traitement qui ferait qu'ils iraient, soi-disant, mieux. Mais qu'il s'agit d'abord de regarder comment ils vivent et ce qu'ils font. Et la méthode donc de Deligny, d'abord, consiste à ne rien faire. Et il a une phrase assez bouleversante, enfin à mon sens, et très juste, pour qu'il y ait un peu cette expérience de l'aide aux enfants qui ont des soucis, qui est que « oublier, dit-il, l'enfant, et voilà qu'il devient ». Donc il y a cette idée qu'il faut ouvrir un espace... un espace où l'enfant peut vivre sans être, on va dire, jugé, pour le dire simplement. Et ce qui est assez intéressant chez lui, c'est qu'il a poussé la logique de cette position jusqu'à faire en sorte que ce ne soit jamais lui qui soit l'observateur, mais qu'il fait observer les phénomènes qui l'intéressent par d'autres que lui, qui sont des gens parfaitement incompétents, et qui vont lui raconter, évidemment, des choses qui ne sont pas, voilà, qui ne préméditent pas de voir.
Donc, parmi ces quelques gamins qui arrivent, il y avait un personnage assez bizarre, quoi, qu'on avait appelé Cornemuse. Il gonflait son ventre, et quand il relâchait l'air, il faisait des sons avec sa bouche. Alors, vous voyez, mais il parlait pas du tout. Mais sinon, il se mettait des claques, il se tapait dessus, il hurlait, il gueulait d'un seul coup comme ça. Et c'était déroutant. Je savais pas trop par quel bout attraper ça. Donc à un moment, j'ai pu aller monter là-haut au hameau et voir Deligny. Donc je lui raconte tout ça. Et Deligny me dit, t'as qu'à tracer. Bon, tracer, oui. Bon, d'accord, mais tracer quoi ? Et il me dit, je sais pas, tu prends du papier, un carton, enfin, puis tu dessines ton campement, tous les lieux, l'espace. Tous les endroits du campement, le feu, le ruisseau en bas, la tente où on dort, et tout ça. Et puis, sur ce lieu, sur ce plan, sur cette qu'on a appelé des cartes après, sur la carte, tu dessines tes trajets habituels. Et Deligny propose que sur des papiers transparents, par-dessus cette carte de fond, qu'on appelle une carte de fond, qu'on trace les déplacements, les attitudes des gamins qui nous surprenaient, parce qu'ils se balançaient, ils faisaient des détours. S'il y avait un caillou là, au lieu de la ligne droite n'existait pas d'un point à l'autre, ils faisaient un détour, puis au retour, ils refaisaient le détour, enfin, il y avait tout ça. Donc, consciencieusement, les lignes d'air, puisque voilà, c'est comme ça que Deligny a nommé ce qui était sur les papiers transparents, les lignes d'air des uns et des autres ont été tracées, Et puis remonter là-haut, quand Gisèle passait, ou n'importe quoi, remonter ça à Deligny, qui entassait ça sur une planche. Il faut imaginer, c'est une, au moins une centaine de, si c'est pas plus, je m'en rappelle plus, mais de papier calque. Et il me dit, tu peux pas faire une table lumineuse? Bon, il n'y a pas de problème, on va faire une table lumineuse. Vu que mon métier, c'était électricien, il n'y avait pas de souci. Donc je bricole une table lumineuse. Et il met tout ce tas de tracés, de lignes d'air, de trajets, sur cette table lumineuse. Et Deligny, qui n'est jamais descendu dans ce qu'on appelait l'île d'en bas, qui n'est jamais descendu, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a là tout autour? T'as mis quoi? Du barbelé? Il y a pas de barbelé, c'était des murettes. Mais j'ai dit non. Mais il dépasse jamais ces limites-là? Ben non, jamais. Donc d'un seul coup, apparaissait sur tous ces tracés, quelque chose qui nous crevait les yeux, mais qu'on ne voyait pas. Voilà.
Première carte qui a été faite, mais c'est pas sûr qu'elle y soit. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça se passe dans une maison à Monoblet chez Guy Aubert. Hiver 69, la carte de fond. On voit là un enfant qui est assis ici. Alors, la légende, il y a marqué 1, il saute. Alors, et alors, c'est représenté ici. Après, il y en a le 2, il suce son pouce. Voilà. 3, il fuit
le va-et-vient.
Le va-et-vient. Où il est le va-et-vient? Ah, là, voilà. Ah oui, ici. Enfin, voilà le genre de choses que... Ça c'est vraiment les toutes premières cartes. Hein.
Oui, parce que ça...
Donc, c'est vrai que ça balbutiait. Enfin, c'est un peu...
Oui, parce que comment tracer les cartes, c'était toute une recherche. Hein. Oui, c'est-à-dire que Deligny remettait sur l'établi une autre façon peut-être de tracer les choses. Et tout ça, ça n'a pas arrêté en toutes ces années, ça n'a pas arrêté de changer. Hein.
Et puis, il est arrivé, alors d'autrefois, que... Nous nous apercevions que, par exemple, les lignes d'air étaient attirées, bien souvent, par le nœud de nos trajets. C'est-à-dire, quand des gens vont et viennent dans une aire de séjour, ils se croisent plus particulièrement à certains endroits, à certains nœuds de leur trajet. Hein. Et que les lignes d'air étaient attirées par ces nœuds-là, surtout quand personne n'y était. Alors on a fait quelques trouvailles comme ça, qui se vérifient à l'usage imperturbablement, de même qu'un gamin autiste arrive, il n'est jamais venu là, il débarque de Paris, de Marseille ou de Lyon ou d'ailleurs. Au bout de quelques heures, il navigue là, sur l'air de séjour, et il va se planter. Là, et ben ce là est commun à 30 autres, 25 autres, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Hein, à nos yeux, il n'y a rien. Et pourtant, cela est absolument commun. Voilà les cartes que c'est. Hein, ça nous permet, grâce aux traces gardées, accumulées, comparées, regardées, ça évoque quelquefois, quand on a un peu de chance, ce qui, de nous, est repéré. Et il s'avère que ce qui est repéré de nous, ça n'est pas particulièrement nous là en chair et en os, ce sont des traces hein, qui comptent beaucoup plus que nous-mêmes. On est repéré, on ne sait pas où, hein, on s'est repéré, on ne sait pas à quoi, on est repéré. Alors de temps en temps, on s'aperçoit Où est-ce que nous comptons pour eux? Où nous comptons pour eux au nom de nos trajets, là où nous passons souvent, et surtout quand on n'y est pas. Et on comprend bien que c'est quand on n'y est pas, parce que quand on n'y est, ils peuvent pas y être, hein, il n'y a pas la place. Alors, ils attendent qu'on n'y soit plus pour s'y filer. Ça, il est vrai que nous sommes repérés. C'est comme si nous portions une espèce d'ombre qui ne serait pas vue de nous, qui ne serait pas perceptible par nous, et qui apparaît dans la vacance du langage.
Bon, mais là, on est sur 73. C'est la représentation... Ah oui, la confection d'un gâteau, voilà. Et donc, c'est tous les gestes...
Il y a les gestes, là.
Ouais, pour préparer le gâteau. La technique, c'est du pastel gras, un peu des calligraphies. Après, là, en oui, fait, c'est à partir de là où j'ai eu vraiment envie de continuer à dessiner, à peindre. Enfin, c'est évidemment, il y a un côté esthétique que j'avais plaisir aussi à travailler.
Et là, il y a tout le campement du Céré, l'eau à la source, le bas où on étalait le linge... L'abri, parce que là, on est en...
Un grand abri.
Là, on est en novembre. Hein.
Ouais. Et là, il y a la cabane en bois.
Après j'ai fait une cabane, oui. Et on a vécu dans de ces endroits que c'est sûr que les services sociaux, ils auraient pu quand même froncer les sourcils.
Ah oh, ben, à l'heure actuelle, ça serait...
Oh, ben non, on n'en parle plus, là.
En devenant vieux, j'étais obligé de devenir plus rusé. Et c'est la première fois qu'une tentative qui se trame de par ma présence dure si longtemps. Hein, en général, ça crève et c'est étouffé au bout de 2-3 ans, hein, ou ça se décourage. Celle-ci, depuis 67, elle est tricentenaire. Quoi, hein, c'est une vieille, vieille tentative. Et ça me pose des problèmes, d'ailleurs. Ça, je suis stupéfait que ça dure si longtemps. Hein. J'avais l'habitude des choses violentes, brèves, hein, spectaculaires. Mais je me demande comment ça se fait que ça dure. Je n'ai pas trouvé de réponse.
Deligny, on a tendance à le résumer aux Cévennes. L'image qui surnage, c'est celle d'un homme dans la période des années de contre-culture dans les Cévennes qui a vécu avec des autistes. Et au fond, on le banalise d'une certaine façon. Mais... ce chemin de vie est pour moi totalement exemplaire. C'est-à-dire quelqu'un qui, depuis le début et jusqu'à la fin, c'est une ligne droite. Depuis Armentières jusqu'aux Cévennes, c'est une ligne droite sur la manière de retourner l'institution, d'inventer il faut inventer des gestes et des pratiques. On n'est pas tous doués pour ça. Lui, il est formidablement doué. C'est-à-dire, il est capable de retourner une situation à son avantage. Et en même temps de la penser et en même temps de l'écrire. Alors, c'est vrai que, bon, Deligny, il est mort en 96, et dans le dernier acte de sa vie, je peux dire par rapport au réseau, c'est que juste avant de mourir, la DAS, la direction départementale de la santé, ont décidé qu'il fallait qu'il rentre dans l'ordre. Et donc, c'est quasiment la dernière chose qu'il a faite. Il a écrit une lettre pour expliquer ce qu'ils avaient fait et pour dire « Ok, on va rentrer dans l'ordre ». Ce qui permettra à Jacqueline et Gisèle de rentrer dans l'ordre parce qu'on les menace de procès et d'aller en prison s'ils continuent à faire ce qu'ils font sans aucune autorisation pour vivre avec des autistes. C'est-à-dire que c'est un lieu marginal. Et ben en 96, c'est terminé la marge. Et c'est lui qui fera le dernier courrier pour protéger Jacques et Gisèle.
Dès juillet 1967, Gisèle Durand et Jacqueline m'ont rejoint pour m'aider à maintenir vivace le réseau de séjours d'essai offert aux enfants autistes qui, à la suite de Jean-Marie, m'ont permis de chercher un quotidien qui leur soit favorable. Dès lors, le réseau qui n'existait qu'en filigrane prenait corps et s'affirmait permanent et durable. À ce jour, en janvier 1996, leur présence attentive n'a fait que se renforcer sans se démentir un seul jour et s'avère être un exemple pour ceux qui, à leur tour, choisiraient d'être présents auprès des enfants étranges au sens littéral du terme. L'un comme l'autre et l'un dans l'autre, ils ont saisi l'enjeu de cette démarche où il s'agit de dépasser le rôle d'éducateur pour être compagnon d'existence où tout est partagé, de jour comme de nuit, la nourriture qui se prépare aussi bien que le sommeil. Par leur présence, ils donnent au mot d'asile tout son sens qui semble perdu et se confond avec garderie. Gisèle Durand et Jacqueline ont persisté, il leur manque d'être reconnus.
Dans les plus grandes pagailles, tu es le calme souriant. Dans les grandes calmes, tu es le vent.
Tu es le vent.
Tu es le vent.
Voilà.
Fernand Deligny, Savoir réseau tramé, avec
Gisèle Durand, présence proche d'enfants autistes, gardienne des cartes.
Richard Coppens, réalisateur.
Catherine Perret, philosophe, psychanalyste.
Jacqueline, présence proche.
Sandra Alvarez de Toledo, fondatrice des éditions de l'Arachnéen.
Prise de son, Andreas Jaffré et Charles Bouticourt. Mixage, Mathieu Tourin. Aide à la documentation, Anne-Lise Signoret. Coordination, Anaïs Quien. Attachée de production, Sylvia Favre. Merci à la compagnie Catalyse, avec les comédiens Emilio Letaro, Jean-Claude Pouliquin, Tristan Quentin et la comédienne Christelle Poder. Metteuse en scène, Madeleine Louarne.
Et là, je me suis dit que ce qu'on faisait ici était profondément inspiré de cette foi dans ce travail d'apôtre, là, de croire qu'effectivement, cette graine d'homme, elle nous est totalement commune et qu'il faut qu'on y aille voir, quoi. Qu'on accompagne et qu'on soit là avec, plus qu'avec, et que ça nous change aussi. Il a changé sa vie avec eux, il le dit d'ailleurs, Jean-Marie a changé sa vie, et je dis que Catalyse a changé ma vie. Je n'aurais jamais fait de théâtre sans eux. Donc je pense que ces déroutes là, ces déroutages, il est salutaire. Et aujourd'hui, comme on est devant des tas d'impasses incroyables, je me dis qu'un Deligny nous dit petit pas de côté là, une petite brèche, comme il dit souvent. Faire une brèche, il faudrait faire des brèches. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire.
La compagnie Catalyse est installée à Morlaix, au Centre national pour la création adaptée, depuis 2021. Toute une vie, Fernand Deligny, Savoir réseau tramé, un documentaire de Luc Vauvillet, réalisé par Marie Placé.
Retrouvez Toute une vie, ses podcasts et ses bonus sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.